Il ne faut laisser d'indécision dans aucune chose. C'est une phrase de Corot qui recommandait ça à ses élèves. Et je pense que c'est un des peintres du 19e siècle qui nous laisse le plus indécis justement lorsque l'on est devant son œuvre. C'est-à-dire que autant il y a une certaine logique dans la première moitié avec ce passage de l'atelier néoclassique à la forêt de Barbizon, donc on se trouve dans des terrains connus et on pourrait être rassuré en se disant bon, il va suivre l'évolution que l'on croit être celle du paysage au 19e siècle. Et puis dès 1840, les choses deviennent beaucoup plus complexes. On constate que les thèmes s'élargissent, que l'approche du paysage devient très diversifiée. On sent qu'il a un désir de renouveler sa peinture, mais les choses partent un peu dans tous les sens malgré tout. Et on se trouve devant un homme devant lequel on est indécis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, et les historiens d'art ont du mal à le classer, si c'est un néoclassique qui régénère le néoclassicisme, si c'est un romantique qui ne fait que suivre des pistes lancées par des peintres de la génération 1830, si c'est déjà un réaliste comme Millet ou Courbet, ou si c'est effectivement, comme on l'a beaucoup écrit, un précurseur de l'impressionnisme.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est une manie bien française à laquelle n'échappent pas toujours les historiens de l'art que de vouloir tout ranger dans des cases. La question, au fond de peu d'importance, qu'évoque ainsi Vincent Pomarède à propos de Corot, fut-il néoclassique, romantique, réaliste ou pré-impressionniste, se trouve illustrée par l'absurde avec la répartition des œuvres du peintre entre deux musées, au Louvre, celles qui furent peintes avant 1850, à Orsay, les suivantes. Corot, le doux paysagiste, devient donc, géographiquement parlant, le chaînon reliant la peinture classique et romantique du 19e au renouveau impressionniste et moderniste. Je dois l'avouer, les paysages de Corot n'ont jamais fait partie des tableaux que je rêverais de posséder, trop sages, trop doux. En revanche, la sublime Dame en bleu, vue et revue au Louvre, qui en a la garde, ferait tout à fait mon bonheur. Et justement, ça tombe bien, c'est elle que l'on peut admirer sur l'affiche de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles, qui se tient au musée Marmottan-Monet jusqu'au 8 juillet. Une exposition passionnante, imaginée par Sébastien Allard, directeur du département des peintures au Louvre, qui nous fait découvrir un pan méconnue de l'œuvre de Corot, des visages et des corps de femmes qui, en 1909, exposés à Paris pour la première fois, avaient saisi Picasso et Braque. Bonsoir Sébastien Allard.
Bonsoir.
Alors, est-ce que je suis la seule à découvrir ce Corot portraitiste que j'ignorais quasiment ? Je pensais que la Dame en bleu, c'était une sorte de hasard. Il y a de temps en temps des personnages féminins dans ces paysages. Mais là, l'exposition que vous nous avez concoctée à Marmottan-Monet, c'est un peintre complètement différent de ce qu'on connaît, un peintre original, un peintre terriblement attachant, mais un peintre secret.
Oui, alors le mot secret est peut-être un petit peu exagéré. Disons que c'est un peintre méconnu. Vous n'êtes pas la seule à ne pas connaître ce peintre de figure. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des portraits, c'est tout ce qui représente la figure humaine. Donc ça peut être des nus, ça peut être des figures de fantaisie, des italiennes, des grecques, ou cette dame en bleu qui termine l'exposition. C'est un peintre un peu secret. En fait, on l'a vu dans la dernière grande rétrospective organisée justement par Vincent Pomarède en 1996-97. Mais ces figures sont un petit peu noyées dans la masse de la production du paysagiste.
Ça représente combien à peu près par rapport à ses œuvres ? On dit qu'il en a peint 3000, même s'il y en a 10 000 aux États-Unis.
Mais oui, bon. je ne saurais pas exactement dire, mais ça, est-ce que ça représente 10 ou 20% de sa production ? Donc ce n'est pas majeur, mais c'est important dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'artiste lui-même. Et en fait, l'idée un petit peu de cette exposition m'était venu parce que on voit une figure de temps en temps dans les musées au milieu des paysages et puis on se dit c'est bizarre, ça ne colle pas tout à fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis on va dans un autre musée, on retombe sur une figure et puis on a l'impression que c'est la même que celle qu'on a vue précédemment mais pas tout à fait. Donc on est dans cette part un petit peu mouvante, expérimentale de l'art de l'artiste qui est avant tout un paysagiste et peut-être l'un des plus grands paysagistes de l'art français.
Mais d'ailleurs, Sébastien Allard, Corot lui-même, pendant très longtemps, d'abord ne montrait pas beaucoup ses figures, et il a commencé à les vendre sur l'assistance de quelques amis ou de quelques marchands, sur le tard, quand il était déjà connu, et peut-être il pouvait se permettre de vendre ses figures qu'autrement il se gardait pour lui tout seul ou qu'il offrait à ceux qui l'avaient peint.
Oui, absolument. Ces figures, c'était un petit peu son jardin secret. Enfin, relativement secret, puisqu'on pouvait les voir quand on était invité dans l'atelier. Certaines étaient accrochées sur les murs de l'atelier. Il en a offertes certaines à des amis, à sa famille. En particulier, les tout petits portraits qu'on voit au début des années 1830 ont été offerts à des gens qui lui étaient très très proches. Et puis, certaines figures ont été aussi vendues, mais par l'intermédiaire de marchands qui eux-mêmes lui étaient proches. Donc c'est un peu son monde à lui, et qu'il le distribuait comme ça, avec parcimonie, avec toujours, il s'en explique d'ailleurs quelquefois, la peur de ne pas être compris. Que ces figures qui sont la part, peut-être une des parts les plus personnelles, en tout cas une des parts les plus expérimentales de sa production, ne soient pas comprises.
Mais d'ailleurs, dans le catalogue dans lequel vous signez les textes, Sébastien Allard, le catalogue édité chez Azan, qui est très intéressant, vous dites que Corot lui-même parlait de ses petits portraits comme étant ses petits singes.
Oui, c'est un terme qui est à la fois sympathique, enfin on sent une forme d'attachement, et peut-être aussi l'expression enfin, de quelque chose encore d'inabouti. Donc ce qu'on sent dans beaucoup de cette production de figures, et pas seulement dans les portraits, c'est la recherche de quelqu'un qui est un paysagiste, donc qui pour sa génération est quelqu'un qui travaille dans un genre mineur, sachant que la hiérarchie de la peinture, en tout cas en France, pour cette génération de Corot, qui est la génération romantique née à la fin du XVIIIe siècle, le sommet, c'est la peinture d'histoire, c'est-à-dire la peinture qui représente l'homme dans ses actions les plus héroïques. Mais ça peut être aussi le nu. Et ce qui semble bien, c'est qu'on voit que Corot, de plus en plus au long de sa carrière, tente la fusion harmonieuse du paysage et de la figure. C'est ça qui se profile à l'horizon.
Alors, je revenais sur cette expression « petit singe », Sébastien Allard, parce que cette exposition, elle est très intéressante, parce qu'en plus, elle est non seulement thématique, mais elle est chronologique, ce qui veut dire qu'on voit l'évolution de cette peinture, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, on a l'impression, en sortant de là, que le portrait a été pour Corot une manière d'éprouver sa manière de peindre, sa recherche sur la peinture, donc un peu secrètement d'ailleurs, à travers ses portraits. Et on démarre par des tout petits portraits à l'entrée, qui font passer d'ailleurs aux portraits de Boilly qui sont à l'étage au-dessus, à Marmottan, hein, et qui ont une certaine étrangeté. Alors, certains critiques disent que ça évoque Balthus. C'est vrai qu'il y a une manière, chez souvent ces petits-enfants très jeunes, de regarder fixement, sans sourire, avec une sorte de gravité qui met un peu mal à l'aise. C'est très étrange, ces petits portraits.
Oui, tout à fait. On voit, si on regarde un petit peu la carrière, et pour rebondir sur la formule de Vincent Pomarède au début, c'est que dans ces années 1830, c'est encore assez clair, il fait des portraits dans des formats effectivement extrêmement petits de proches. Et ceux où il réussit le mieux, ce sont ses portraits d'enfants. Et en effet, il saisit quelque chose de l'enfance, quelque chose qui est étranger un petit peu à nous adultes, mais qui est en même temps proche. Et on est à un moment dans cette génération née à la fin du XVIIIe siècle où les artistes vont essayer de saisir ce qui fait le propre de l'enfance. C'est-à-dire, ce ne sont pas des adultes en miniature, les enfants ont leur propre psyché. Alors du côté de Géricault, qui est un petit peu plus vieux, ça va devenir des monstres, donc quelque chose, des enfants qui rampent, des enfants qui sont proches de la terre, d'un monde un petit peu sauvage. Et du côté de Corot, ces enfants sont en voie de sociabilisation, ils sont debout avec leurs jouets, habillés comme des enfants sages, mais en même temps, ils sont traités dans une manière qu'on pourrait dire presque naïve, une touche légèrement tremblée, un peu posée là. Il y en a un en particulier qui est assis et dont le regard fuit à l'extérieur de la composition, comme si il cherchait le regard d'un adulte qui lui dit « tiens la pose ». Donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre, oui, d'une forme de naïveté un petit peu en deçà de l'ordre du psychologique, si je puis dire.
Oui, et puis il y a, moi je disais gravité, mais il y a aussi cette mélancolie, alors là qui va être une constante dans la peinture des portraits, des figures chez Corot. On va écouter, après Vincent Pomarède, Jean Lemarie, bien sûr, c'était en 1996, à l'occasion de cette grande exposition.
Il a peint surtout des adolescentes. Et naturellement, le regard des adolescentes est toujours un peu perdu, un peu rêveur, en attente de leur destin. Et également les enfants. Il a une sympathie, lui qui n'a jamais été marié ni père de famille, mais il a une sympathie naturelle pour les enfants. Et lui-même, d'ailleurs, avait dans sa vie un côté tout à fait, au meilleur sens du mot, enfantin. Donc il a su saisir, c'est un des plus grands peintres de l'enfance. Et alors quand le paysage devient lyrique, à partir de 1850, le sentiment l'emporte sur la vérité objective, les figures réalistes cessent également et nous avons affaire à des figures d'invention, des figures de genre, comme ça, qui sont quelquefois posées par des modèles, bien sûr, mais transposées, revêtues de vêtements exotiques, des odalisques, des algériennes, des bohémiennes, qui sont d'un format plus grand d'ailleurs. Et alors là, il est capable de rejoindre par moments, et on l'a noté, aussi bien Vermeer que Rembrandt. Vermeer pour la densité chromatique et Rembrandt pour le côté rêveur.
Il est vrai, Sébastien Allard, quand on regarde certains des portraits et des couleurs employées par Corot, qu'il y a de temps en temps ces jaunes et ces bleus que l'on retrouve dans les portraits de Vermeer, et dans certains autres, les ocres, les gris, les noirs qu'il y a chez Rembrandt. Est-ce qu'on sait si ce sont des peintres qui ont justement inspiré Corot pour les portraits ?
Effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que Corot est aussi un contemporain de la redécouverte de Vermeer par les Français et en particulier par un critique célèbre qui s'appelle Tory Burger. Le rapport avec Vermeer qui a été avancé en particulier par un grand critique allemand du début du XXe siècle, Meyer Graefe, me paraît peut-être un petit peu forcé. Ce qu'on veut dire dans le rapport avec Vermeer, plus que le coloris, je dirais, c'est la concentration. C'est ça, c'est cette espèce de mélancolie concentrée qu'on trouve chez Vermeer d'une certaine manière et chez Corot aussi. Et Rembrandt, effectivement, est une des grandes figures qui domine cette génération. En particulier, on peut tout à fait le noter dans les gris et dans certains noirs qu'on trouve, surtout dans les grandes figures de Corot. Il y en a une qui est directement inspirée d'un Rembrandtesque que nous n'avons pas dans l'exposition, qui est le portrait de Mademoiselle Foudras, où là, on a effectivement ce gris, ce noir, pas très éloigné de Rembrandt.
Oui, la mélancolie aussi.
Et la mélancolie.
Sont vraiment les couleurs. Alors, est-ce qu'il y a dans ces figures que l'on voit, parfois il y a des maladresses, parfois il y a des esquisses. Il paraît d'ailleurs que tous ces portraits ne sont pas faits sur toile, mais que ce sont des papiers, des huiles, et qui ensuite ont été posés sur des toiles. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, pour lui, ce n'était pas de vrais tableaux ?
Non, la plupart de ces figures ont bien été peintes sur toile, mais il y a dans cette catégorie des figures, on pourrait dire un groupe, qui sont les études qui ont été faites en particulier lors des trois voyages de Corot en Italie. Et là, ce sont bien souvent ce qu'on appelle des papiers marouflés, donc ça a été peint sur le papier. Comme tous les peintres qui allaient en Italie, on voulait saisir le pittoresque des costumes, des paysannes, des paysans, des jeunes enfants, ou même des nus qu'on faisait poser dans les ateliers. Et ensuite, donc, ça avait un statut d'étude, et puis ensuite, on les montait sur des toiles. Alors, en revanche, les autres tableaux sont des vrais tableaux, me semble-t-il. Même s'ils n'étaient pas diffusés aussi largement que les grandes compositions exposées au salon.
Alors, vous parlez de ces voyages en Italie, Sébastien Allard. C'est vrai qu'on sait qu'à l'époque, bon, beaucoup de peintres français s'y rendaient avec des bourses. C'était pas le cas de Corot, parce qu'en fait, il était riche, si on peut dire, par rapport à ses amis peintres, puisqu'il a hérité de son père et sa mère lui avaient versé une petite bourse pour vivre. Et donc, en fait, c'est un peintre qui n'a jamais mangé de vache enragée. Et en même temps, il paraît qu'il n'a vendu son premier tableau qu'à 55 ans.
Oui, alors c'est ceci expliquant peut-être un petit peu cela. C'est l'antithèse de l'artiste maudit qui crève la faim dans sa mansarde. Corot, effectivement, est d'un milieu bourgeois. Ses parents ont un magasin de mode. Donc cette question aussi, ce goût peut-être pour le costume, que ce soit le costume italien, grec, pittoresque, mais peut-être le costume moderne, qui est celui de la Dame en bleu, vient peut-être aussi en partie de là. Et donc, il peut se rendre en Italie sans une obligation. Et surtout, il peut se former sans avoir besoin, financièrement enfin, de remplir le cursus honorum de toutes les étapes qui vont l'amener à être véritablement un artiste. Alors, c'est évidemment un avantage, mais peut-être que... De son point de vue, je n'en sais rien, mais peut-être que c'était aussi un défaut parce que du coup, il n'a pas peut-être eu tout l'enseignement du nu et tout l'enseignement complet qui va s'attacher à la figure, qui était l'enseignement néoclassique.
Est-ce que, du coup, pour les critiques qui parlent de maladresse, parfois, dans ces portraits, justement, est-ce que c'est un terme qui semble convenir ?
Non. Je dirais, sinon... Alors, quelquefois, oui, un petit peu, dans les petits portraits du début, dans les portraits qu'il faisait pour son entourage, pour sa famille, enfin, ou qu'il donnait. On a dans l'exposition le portrait de sa mère, qui est très, très touchant, qui est une... Sa mère est assise dans un tout petit format, et elle est... Le bras est un petit peu maladroit, et on a aussi, même dans ses portraits d'enfants, même si on y trouve une naïveté qui exprime l'enfance, il y a quelquefois une petite maladresse, mais ce sont là des œuvres de jeunesse où on sent l'artiste qui s'exerce vraiment à la figure, et d'ailleurs qui ne les diffuse pas, qui le donne à ses amis ou à ses proches. Mais ensuite, il y a parfois des petites maladresses de perspective ou de choses comme ça, mais quelquefois on se demande si c'est pas fait exprès, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a plu aux cubistes en 1909. Mais ensuite, plus la carrière avance, plus on sent que Corot, disons, assume complètement la figure. Alors, le sentiment qu'on peut avoir, disons, que c'est pas parfait, c'est que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps. Et donc, quand on visite l'exposition, si on regarde la chronologie, là je reprendrai aussi ce que disait Vincent Pomarède, dans les années 30, c'est à peu près clair, on a ces petites figures. Dans les années 40, on a des modèles qui posent, quelques figures de modèles comme la blonde gasconne, comme une figure ici ou là. Et puis, à partir des années 50, alors là, on a énormément de figures qui apparaissent, et ça va un peu dans tous les sens parce qu'on sent l'artiste qui y cherche. Alors évidemment, c'est pas toujours parfait, c'est pas la perfection qu'il cherche, c'est l'expression, le sentiment, la couleur, et donc le rassemblement de toutes ces figures parfois donne un tout petit peu le tournis parce qu'il explore beaucoup de voies.
En travaillant ses portraits, il est visible qu'il se pose la question du corps humain, de l'étude du visage et surtout de l'étude de la posture physique et de ce que cette posture suggère comme sentiment. Et dans ses figures de fantaisie vont revenir de façon un peu obsessionnelle les deux ou trois thèmes qui lui importent le plus dans sa vie, la femme et le corps féminin. C'est un artiste qui a peint de nombreux nus. Et cette réflexion sur le corps féminin, il l'amène toujours parallèlement à le traitement d'un sentiment, la rêverie, la lecture, et essayer de montrer comment, lorsque l'on est en train de lire, on part dans un univers de sentiments et d'impressions complètement personnels et intériorisés, comment un peintre peut rendre ces phénomènes. Le troisième thème est celui de la musique, qui intervient très souvent, soit comme un accessoire, soit très directement, une jeune femme en train de jouer de la mandoline, une jeune femme en train de jouer du violoncelle, qui est un moyen de, à ce moment-là, de présenter une posture physique, ou le moment où elle pose sa mandoline après avoir interprété un morceau et où elle est encore dans le moment de magie de son interprétation.
On vient d'entendre Vincent Pomarède, toujours en 1996, pour cette grande exposition dont il était le commissaire. Vous, aujourd'hui, Sébastien Allat, vous avez montré la progression de Corot vers cette peinture de sentiments qui n'est pas exprimée par les traits du visage, qui sont toujours un peu mélancoliques, jamais de sourire, mais par des postures de corps qui expriment quelque chose à chaque fois, qui nous saisissent, qui nous arrêtent. Et du coup, je repensais, je crois que j'ai lu un jour sous la plume d'un de mes confrères, il disait, en fait, Corot a peint des arbres comme des corps et les corps comme des arbres. Est-ce que ça vous semble juste comme remarque ?
Ça, j'hésiterais à dire qu'il a vraiment peint, qu'il a peint des corps comme des arbres. Ce qu'on peut dire, oui, il y a des formes de corps qui peuvent être comme toutes ces femmes à la fontaine qui sont toutes un petit peu raide, un petit peu droite. Je ne suis pas sûr que ce soit pas une facilité pour essayer justement de dire cela, de rabouter le peintre paysagiste et le peintre de figure, alors qu'on sent qu'il y a...
Pour vous, ce sont vraiment, j'allais dire, deux peintres différents,
c'est une seule,
c'est deux
une
styles
seule
différents.
Personnalité, mais... avec la difficulté de rassembler les deux. Alors, on a parfois des climats qui vont être proches. Le climat, effectivement, mélancolique qu'on a dans ces femmes rêveuses, dans ces joueuses de mandoline, dans ces lectrices, et qu'on a aussi dans les paysages, les souvenirs de la fin, souvenirs de Mortefontaine, etc. Mais quelquefois, à la fin de sa vie, on a des moments où... le peintre de figure prend un chemin qui est très différent du peintre de paysage. Par exemple, c'est au moment où il exécute un grand nombre de paysages qui sont dans des teintes de gris argenté, justement, qui évoquent le flou du souvenir, qu'il peint cette extraordinaire italienne, aujourd'hui conservée à la National Gallery de Londres et qui se trouvait jusqu'à très récemment dans la collection de Lucian Freud, où là, au contraire, c'est la couleur qui est là. Elle est un peu désagréable, elle est assez massive, elle a des côtés un petit peu masculins, elle a une lumière très dure qui lui tombe sur le visage, et le costume a perdu tout pittoresque, les rubans deviennent des jets de peinture rouge, bleu, jaune, et là on a d'un côté des paysages qui tremblent sous l'effet du souvenir, et de l'autre côté une peinture qui éclate avec une certaine violence ou au moins jouissance. Donc voilà, c'est pas toujours, le lien entre les deux n'est pas toujours évident.
Mais d'ailleurs, dans cette exposition, on s'en rend compte, dans les figures, Corot a lui-même des styles très différents. Parfois, il peint des figures un peu romantiques. Et d'autres fois, c'est d'une dureté, d'une violence, avec des contrastes, avec des fonds très sombres. C'est très moderne en même temps.
Oui, il y a
la
des
lecture
choses,
interrompue, oui. Par exemple, voilà. Est un tableau d'une modernité folle.
La lecture interrompue est un des sommets de sa production de figures. Alors, c'est un grand tableau, contrairement à beaucoup d'autres, quasiment grandeur nature, où on a une femme qui est habillée en italienne, mais alors là, il n'y a plus de pittoresque du tout du costume. Le costume, ce sont des masses qu'il faut équilibrer, la jupe, le corsage. Elle a interrompu sa lecture, elle est accoudée dans la pose de la mélancolie, mais l'angle que forme son bras est complètement géométrique. Et donc, on sent que là, le problème pour Corot, c'est d'équilibrer des masses et des volumes. Donc, on est dans quelque chose qui est presque abstrait et qui est en partie inachevé, comme beaucoup de ces grandes figures de la fin de sa carrière. Alors, inachevé, ça veut pas dire, elles sont peut-être finies. C'est-à-dire que peut-être que Corot est arrivé là à quelque chose, une forme d'abstraction qui était satisfaisante, et donc il a arrêté les tableaux là. Mais ça ne veut pas dire que les tableaux sont complètement inachevés, ne sont pas finis, ils sont finis mais inachevés.
Alors, ce qui rassemble aussi tous ces portraits, on l'a dit, on l'a redit, c'est ce sérieux, cette gravité, cette mélancolie, même lorsque les sujets, pour des femmes qui jouent de la musique, pourraient prêter à plus de liberté et plus de légèreté. On va écouter l'avis d'Emmanuel Pernoud, qui est un historien de l'art et qui a écrit lui-même une monographie sur Corot, « Peindre comme un ogre ».
Ils ont l'air un peu perdus, ils ont l'air très fatigués, ils ont l'air mélancoliques, ils ont l'air de s'ennuyer. Il y a un tableau de lui qui est une sorte de démarquage de la Joconde. C'est-à-dire, il fait poser un modèle dans l'attitude de la Joconde, mais cette Joconde n'a pas de sourire, elle s'ennuie, elle est ailleurs. Et là, il y a une sorte de vérité sur le modèle, quelqu'un qu'il peint dans son atelier sans tenter de travestir, d'en faire une reconstitution. Ce qui est intéressant, c'est un peintre qui est contemporain de l'orientalisme, d'une peinture exotique qui vous transporte. Bon, alors, on peint, les peintres, ses contemporains peignent des Algériennes qui vous transportent en Algérie. Et c'est une peinture qui est pleine de fantasmes et de dépaysements. Or, Corot, lui, déguise ses modèles en Algériennes, mais sans dissimuler la fiction. Ce sont des panoplies. Alors, il y a toujours une sorte de hiatus assez étonnant entre le costume et le modèle, comme si on était un peu dans une... Non, on ne peut pas dire dans une opérette, parce que tout ça se passe dans son atelier, mais y a chez lui ce souci de montrer les choses simplement, telles qu'elles se passent, et de ne pas travestir la réalité.
Sébastien Allard, c'est intéressant ce que soulève Emmanuel Pernoud, parce que c'est vrai, il y a des Algériennes, il y a des Italiennes, il y a des jeunes Grecs. Et en même temps, on sent bien que c'est pas l'orientalisme, l'exotisme, le voyage qui, à l'époque, nourrit beaucoup les peintres. Évidemment, on pense après à Delacroix, hein. Mais c'est, en fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le visage et la posture.
Alors là, je suis entièrement d'accord et avec vous et avec Emmanuel Pernoud. En fait, ce qui est fascinant dans ces figures, le plus fascinant et le plus, séduisant, si on peut dire, c'est qu'on est toujours dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est entre le réel et l'idéal, on est entre l'atelier comme lieu physique de création et un imaginaire porté par tous ces déguisements, entre le modèle vivant qui pose et qui peut s'ennuyer, dont certains ont des noms comme Agostina, comme Emma d'Aubigny, et une idée de la jeune fille avec un J et un F majuscule. Et je me demande si c'est pas là aussi, sans faire de psychologie d'artiste, mais Corot qui est lui-même entre deux, il est entre deux mondes, c'est la génération aussi de Delacroix, il est né à la fin du XVIIIe siècle, il vit très longtemps et donc à partir des années 50 il est confronté à la nouvelle génération, d'abord à la révolution réaliste de Courbet, puis à la jeune génération de Manet, Degas, Monet qui arrive sur le devant de la scène et il essaye, ce qui est aussi séduisant et qu'on voit très bien dans les figures, c'est ce relativement vieux, puis vieux monsieur qui essaye de mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire de mettre la modernité avec ce à quoi il croit, l'idéal néoclassique dont les romantiques sont les héritiers. Et ce qui fait qu'on est dans cet entre-deux-temps, dans cet entre-deux-lieux, entre l'Orient, l'Italie, la Grèce, l'Algérie et l'atelier. Et peut-être qu'une partie de la mélancolie de ces figures et du flou, quelquefois, qui les anime, vient de ça.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très touchant, parce qu'on sait que c'était un homme qui ne se prenait pas très au sérieux. Il lui arrivait de signer des tableaux qui n'étaient pas de lui pour rendre service. Il ne se portait pas au pinacle tout seul. Et en même temps, il a eu cette réflexion, ce que beaucoup de peintres ont, sur la peinture. Qu'est-ce que c'est que peindre? Et on le pense en voyant toute cette série très intrigante de petits tableaux de jeunes femmes dans l'atelier. C'est rare à l'époque qu'un peintre peigne un atelier. Il peint donc la peinture, en fait.
Oui, absolument. Et cette série de l'atelier est vraiment importante. Dans l'exposition, on l'a mise à la fin, pour dire que finalement tout commence dans l'atelier pour Corot et tout se termine dans l'atelier. On a dit que Corot a pu être un réaliste, c'est en partie vrai, enfin, ou le père des réalistes. Il est allé sur le motif, il a peint, il a toujours besoin, même pour peindre des figures, d'avoir un modèle vivant sous les yeux. Mais après, il le recrée avec son imagination. Et si on regarde ces tableaux, en particulier le tableau du Louvre et le tableau de Washington qui sont exposés côte à côte, bon, on se dit c'est une représentation de l'atelier, il y a un modèle, un poêle, un tableau sur un chevalet, des tableaux sur les murs, un chien, bon, et puis on se dit mais cette représentation, si on regarde bien, n'a pas de sens. Que fait un modèle habillé en italienne en train de toucher un chevalet sur lequel il y a un tableau posé déjà encadré ?
Et en tournant le dos au peintre.
Et en tournant le dos au peintre. Et après, donc, en réfléchissant, on se dit, mais tout ça, finalement, n'est-ce pas, un petit peu comme on évoquait Vermeer tout à l'heure, une allégorie de la peinture, mais sur un mode modeste, qui est le mode de Corot, sur un mode presque réaliste. Ça veut dire, effectivement, si on regarde ce qui est exposé sur le mur, derrière ces modèles assis sur une chaise, c'est d'un côté, on a une étude sur le motif romaine, et de l'autre, un tableau qui est fini. De même, le modèle n'est pas assis en tant que modèle, mais est déguisé en italienne. Donc, en fait, ce que Corot semble nous dire avec ses tableaux, eh bien, c'est que tout ça est œuvre d'imagination. Ça part du réel, ça part d'un paysage que j'ai vu, ça part d'un modèle, une femme que j'ai copiée, mais ensuite, ça part de costumes que j'ai fait venir d'Italie pour habiller ce modèle, mais ensuite, je recrée tout cela avec mon imagination dans mon atelier à Paris.
Oui, et c'est assez étrange justement de noter que ce sont ces tableaux-là qui ont le plus impressionné les peintres qui ont suivi. Il collectionnait aussi les petits paysages, mais c'est vrai que les portraits de Corot, en fait, c'est peut-être ça le chaînon qui relie à la peinture moderne qui arrive après.
C'est en tout cas un des chaînons qui relie à la peinture moderne. Et le paradoxe, c'est que finalement, ce qui plaît à la modernité, qui est aussi la nôtre aujourd'hui, après Cézanne, après Braque, après Picasso, c'est finalement la part de la production, de sa production que Corot ne montrait pas ou montrait avec une certaine réticence. C'est-à-dire une grande partie de son travail expérimental, que ce soit les études sur le motif ou plus ou moins sur le motif, notamment les études d'Italie, ou la peinture de figures. Peut-être aussi, pour le cas des peintures de figures, justement ce qu'on disait, parce que c'est là qu'il perçoit, qu'il saisit la nouveauté et qu'il essaye de un petit peu de réunir tout cela. Degas était très enthousiaste des figures de Corot. Il disait même que c'était la meilleure part de sa production, avant bien évidemment Braque, Juan Gris ou Picasso. Mais ce qui plaisait à Degas n'était probablement pas la même chose que ce qui plaisait à Juan Gris ou Picasso. Ce qui devait plaire à Picasso, c'était le côté un petit peu, ces petites incorrections anatomiques, probablement aussi, ces effets de collage, effectivement, entre les costumes, les chairs, c'est probablement pas les mêmes choses qui plaisaient aux uns et aux autres.
Eh bien Sébastien, alors merci beaucoup d'être venu nous parler de cette très très belle exposition qui se déroule en ce moment au musée Marmottan-Monet, est à voir jusqu'au 8 juillet. Il y a un catalogue avec des textes tout à fait intéressants, évidemment des belles reproductions, qui est publié aux éditions Azan. Et puis ensuite on pourra retourner au Louvre et à Orsay pour voir la moitié de la production de Corot chez l'un et la moitié chez l'autre.
Merci.
Merci à vous, au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de cette semaine. Nous nous retrouverons samedi prochain, si vous le voulez bien. Bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.